Frères et sœurs, je vous propose de poursuivre cette lecture de la lettre de Paul à Tite, dont nous avons entendu un passage au moment de l'expression de la volonté de Dieu. Juste après, dans ce chapitre 3 de l'épître de Paul à Tite, nous y lisons ceci, c'est au verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Ouvrons notre recueil de chants, louanges et prières, frères et sœurs, au cantique 184. Nous chanterons les quatre premières strophes de ce cantique « Demeure par ta grâce ». Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir, tu es venu à nous afin que nous allions à toi, tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle, pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Chers frères et sœurs, il n'aura échappé à personne que nous abordons le temps de l'Avent, et je trouve qu'il n'est pas inutile de se demander pourquoi. Pourquoi le temps de l'Avent ? Non pas seulement le temps de l'Avent comme période qui précède Noël, avec ses décorations plus ou moins lumineuses, parfois ses couronnes et ses bougies, souvent son vin chaud, ces marchés de Noël et le début du repérage des courses de Noël, les marrons chauds qui vont bientôt devenir glacés, et puis les cantiques qui inexorablement prennent des accents de nativité. Ces cantiques qui sentent bon l'hiver déjà. Non, je parle de l'Avent comme temps théologique en fait. Ce temps de l'Avent qui parle de l'advenue de quelque chose, et en l'occurrence, dans une perspective chrétienne, de l'advenue du Messie, l'advenue du divin dans l'histoire des hommes. Pourquoi l'Avent ? Pourquoi ce processus qui conduit finalement au Christ ? Pourquoi Noël, à vrai dire ? Était-ce bien nécessaire ? Pourquoi l'advenue du Christ tel qu'il s'est manifesté en Jésus de Nazareth? Pourquoi Noël et tout ce qui s'en suivit? Noël est-il si nécessaire? Je pose cette question parce qu'en fait, je trouve que cela ne va pas forcément de soi. L'incarnation est une spécificité assez chrétienne, finalement. Plus que dans l'islam, qui pourtant parle de Jésus dans des termes très semblables à ce que nous lisons dans les évangiles, mais qui n'a pas produit les mêmes développements, qui n'a pas tiré les mêmes conséquences de ce qui est écrit dans le Coran au sujet de Jésus. Il me semble que l'Avent, l'advenue du Christ, c'est une spécificité du christianisme qui ne peut pas être passée sous silence. C'est trop gros d'ailleurs pour que nous puissions le cacher. Et pourtant, certains chrétiens aimeraient bien que nous en fassions un peu moins au sujet de Noël, que nous en fassions un peu moins au sujet de l'incarnation, parce qu'ils considèrent que c'est là une vérité chrétienne assez embarrassante finalement. Une sorte de résurgence malheureuse des mythologies anciennes, de ces histoires qui racontent comment des humains s'accouplaient à des divinités pour donner naissance à des moitié dieu, moitié homme, 0% sauveur. Et l'incarnation pose problème à de nombreux esprits éclairés qui voient dans l'incarnation une sorte de concession faite à ceux qui veulent du merveilleux dans la religion, à ceux qui veulent que la religion fasse rêver, qu'elle soit enthousiasmante, qu'elle prolonge le merveilleux de notre enfance, quitte à ce que la religion et la foi chrétienne n'aient plus aucun rapport avec la vie quotidienne. Faudrait-il désenchanter la foi chrétienne en retirant l'incarnation ? Je vais plaider pour éviter de passer par cette case « retirons l'incarnation ». Et j'aimerais vous montrer deux intérêts majeurs pour ne pas reléguer l'incarnation dans les poubelles théologiques au rayon de ces contes à dormir debout. J'aimerais vous rendre attentif à deux raisons pour lesquelles l'incarnation a non seulement sa place dans notre théologie, mais qu'elle relève, me semble-t-il, d'une nécessité dans la pédagogie de Dieu. Le premier aspect a trait à notre connaissance du divin. Je pose, et en fait ce n'est pas très original, mais je le pose quand même, que Dieu se fait homme pour que nous fassions mieux connaissance de Dieu, pour que nous le comprenions mieux. Alors, j'en conviens, cela n'a rien de très original, mais j'aimerais en tirer quelques conséquences et surtout montrer à quel point l'incarnation est nécessaire pour cela. Bien évidemment, Dieu n'a pas attendu le christianisme, ni même Jésus-Christ pour se révéler à l'humanité. Et d'ailleurs, Dieu se révèle même en dehors de Jésus-Christ. Nous sommes bien d'accord. Nombreux sont les prophètes, nombreux sont les témoins qui nous ont rapporté leur expérience et leur compréhension du divin. Nombreux sont ceux qui ont réfléchi à la question de Dieu, à ce qu'il est, à ce qu'il espère, à ce qu'il nous recommande. Nombreux sont ceux qui ont réfléchi aux qualités de Dieu, aux modalités de sa justice, à l'expression de sa volonté. Et tout cela nous révèle Dieu en levant en quelque sorte un coin du voile, en jetant quelques raies de lumière sur cette zone obscure qu'est le divin. Et tout cela, témoin biblique ou non, nous aide à faire un pas de plus vers l'éternel, à découvrir certains de ces aspects un peu à la manière de Moïse qui voit les arrières de Dieu, tels que nous le rapporte le livre de l'Exode, ces arrières de Dieu étant les paroles de l'Alliance. Mais tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous rendent disponible en termes d'expérience du divin, ce sont des mots. Ce sont des mots mis sur ces traces de Dieu. Ce sont des mots, ce sont des réflexions faites au sujet de cette confiance qu'ils sentent grandir en eux. Tous ces récits, tous ces témoignages sont en quelque sorte des éléments de réflexion qui touchent notre intelligence, qui viennent se frotter à notre raison et qui viennent prendre place dans notre cerveau bien curieux de ces choses-là. Mais c'est là précisément que le drame se joue. Car ce n'est que notre intelligence qui va pouvoir accueillir ces témoignages. Et en quelque sorte, ces témoignages vont être cantonnés dans notre cerveau, dans notre intelligence. Ce n'est pas qu'il n'y ait plus de place dans l'hôtellerie de notre existence. C'est que seule notre raison est au contact de ces témoignages. Et que seule notre raison sera le réceptacle de la révélation. Et il me semble que précisément tout l'Ancien Testament résonne de ce drame, de cette parole de Dieu qui reste sur le bout des lèvres des croyants, qui n'arrive jamais à atteindre leur cœur. Et c'est bien là tout le sens de ces prophètes qui disent « il va falloir en passer par une nouvelle alliance », où cette fois, même le cœur du croyant sera circoncis, où même ma parole sera au-dedans de lui, et pas simplement cantonnée au cortex. Il me semble que l'histoire du peuple hébreu, telle qu'elle est racontée dans la Bible, avant d'être la révélation de Dieu, et surtout la révélation d'un échec maintes fois répété, celle d'un peuple qui reste en quelque sorte fermé à ce que Dieu lui propose, parce que Dieu reste à la surface de leur être, que Dieu ne trouve pas de place au plus profond d'eux-mêmes. Que le cœur, symbole de l'intelligence active, de l'intelligence qui nous engage, de l'intelligence qui nous mobilise, de l'intelligence mise au service du quotidien, eh bien le cœur n'est pas l'écrin dans lequel Dieu vient prendre place. Ce n'est pas là que Dieu vient besogner en nous. Dieu reste cantonné à notre intelligence, je dirais formelle, celle qui est capable de produire des discours, mais des discours sans conséquences. Et au fond, je trouve que Dieu s'évertue dans cette histoire de l'Alliance à ce que notre connaissance de lui ne soit pas simplement intellectuelle. Que le divin, vous savez, ne soit pas simplement une hypothèse plausible, une idéologie intéressante, bien huilée peut-être même, mais dont le croyant pourrait tout à fait se passer. Dieu s'évertue à ce que nous le connaissions par cœur, selon les manières qu'il a de se manifester, de se rendre sensible à nous. Or, selon ce que l'apôtre Paul écrit à Tite, l'incarnation, l'événement Jésus-Christ, permet justement la manifestation de la bonté de Dieu et de son amour pour les hommes, ce que Karl Barth appelle à juste titre la philanthropie de Dieu, suivant en cela le texte grec. La philanthropie de Dieu. Continuons avec Karl Barth, justement. Une fois n'est pas coutume. Karl Barth, qui a écrit cette admirable conférence de l'automne 1956, intitulée justement « L'humanité de Dieu ». Karl Barth y souligne l'importance de l'humanité de Dieu qui évite de considérer Dieu comme le tout autre. Et oui, Karl Barth, qui écrit en septembre 56 qu'il ne faut pas envisager Dieu comme le tout autre. Car cela reviendrait à le considérer dans son isolement, dans son univers, dans son absoluité. Et au fond, Dieu vivrait dans un monde qui serait tout à fait étanche, sans lien avec nous. Dieu vivrait dans son univers et nous dans le nôtre. L'incarnation, c'est la possibilité de faire droit à l'humanité de Dieu, mais c'est surtout de permettre à chacun d'accueillir personnellement, en son fort intérieur, Dieu non pas comme une idée, non pas comme une idée intéressante, non pas comme une hypothèse plausible, peut-être belle même, mais comme celui qui vient régénérer notre esprit par son esprit, pour reprendre les mots écrits à Tite. C'est en prenant figure d'homme que Dieu peut vraiment prendre chair en nous et cesser d'être une sorte de principe parmi d'autres. Disons-le plus fortement, cette fois avec les mots de Charles Wagner, qui s'adresse à Dieu en ces termes. Charles Wagner qui parle à Dieu en ces termes, c'est quasiment sa prière. C'est aussi une confession de foi, évidemment. « Je ne peux te penser qu'avec des moyens humains, sous une forme mortelle, semblable à celle de mes frères. Et si tu veux t'approcher de moi, ne faut-il pas que tu descendes au sentier de la terre ? Pour me parler, ne dois-tu pas employer les termes de ma langue maternelle ? Autrement, qui te comprendrait ? Puisque l'homme est un muet et un sourd pour son propre semblable s'il n'en saisit pas le langage. C'est pour cela que tu t'es fait homme et que tu as marché parmi nous sous les traits du Fils de l'homme. » Fin de citation. Pour se faire véritablement connaître, il apparaît que Dieu ne pouvait faire autrement que de nous rejoindre là où nous sommes, là où nous en sommes. Et cela montre à quel point la pédagogie de Dieu est éminemment efficace. Parce qu'en nous rejoignant là où nous en sommes, cela signifie que Dieu ne s'adresse pas simplement à des super intellectuels, qu'il ne s'adresse pas simplement aux théologiens patentés, mais que Dieu est disponible aussi pour le tout petit, pour celui qui n'a pas fait une grande carrière de théologie. Dieu s'adresse aussi bien aux théologiens de renom qu'aux mécréants patentés. Il s'adresse à ceux qui sont des piliers de paroisse, aussi bien qu'à ceux qui en ignorent même l'existence. Dieu se révèle dans l'ordinaire de notre vie en prenant figure d'homme. Sans attendre que nous soyons diplômés pour cela, car ce n'est pas à une intelligence supérieure que Dieu s'adresse, mais c'est à nous, l'humanité réelle. Et c'est à nous, tels que nous sommes, qu'il veut offrir la vie éternelle. Et cela est décisif, bien entendu, parce que dans notre vie quotidienne, et notre vie ecclésiale en particulier, la question se pose de savoir s'il faut attendre que les gens soient conformes à l'Évangile pour les accueillir, ou si nous les accueillons tels qu'ils sont. Et pour les pasteurs en particulier, cela est décisif. Devons-nous attendre que les personnes qui viennent à nous maîtrisent à l'intégralité du petit catéchisme de Luther ou du catéchisme de Genève ou du catéchisme de l'Église réformée de France avant de pouvoir recevoir le baptême? Autrement dit, Dieu attend-il que nous soyons conformes ou Dieu est-il celui qui nous aide à devenir conformes à son espérance ? Disons-le encore plus fortement avec Wilfred Monod cette fois, dans l'une de ses plus belles pages consacrée à la justice de Dieu, où il s'exprime sur la question du mal, le mal dont on fait souvent de Dieu la cause. Il s'exprime au sujet de la crucifixion de Jésus, crucifixion qui montre que Dieu ne peut pas agir expressément contre le mal. Et parlant de la croix, il écrit ceci : c'est toujours le drame du calvaire qui recommence. Eh bien, ce Dieu vaincu, c'est celui qui parle à mon cœur. Pour Wilfred Monod, il est évident que c'est ce Dieu-là qui prend chair, qui s'inscrit dans notre faiblesse, qui seul peut parler à son cœur. Alors peut-être que dans un accès de romantisme, on pourrait dire que c'est ce Dieu-là seulement qui peut l'émouvoir. Mais on pourrait trouver des synonymes au verbe « s'émouvoir ». Schleiermacher parle d'intuitionner en quelque sorte. Eh bien, ces expériences vécues de l'intérieur qui ne sont pas simplement de l'eau qui coulerait à la surface de notre être, voilà ce que Dieu engage dans l'incarnation. L'incarnation, c'est ce qui permet à Dieu de se faire connaître véritablement, de parler d'être à être en quelque sorte, et d'habiter vraiment notre humanité. Et c'est d'ailleurs le deuxième intérêt de l'incarnation, je trouve. Habiter non pas seulement nos pensées et nos rêves, mais notre humanité, pour nous rendre chacun vraiment plus humain. Plus humain que nous ne le sommes nous-mêmes. C'est, me semble-t-il, le sens de la deuxième partie du propos de l'apôtre Paul, qui parle à la fois de la justification par grâce, et de nous rendre héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Paul est un peu technique quand même dans cet épître. Je ne suis pas sûr que vous ayez bien tout retenu dans le détail. D'où l'intérêt de la prédication. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notre sens de la justice dépend en partie, essentiellement, grandement, souvent, de l'idée que nous nous faisons de la justice divine. Notre rapport au monde, notre rapport à la création, notre rapport aux autres, dépend grandement en partie de l'idée que nous nous faisons du rapport que Dieu lui-même entretient avec la création, le monde, les autres. Et si nous n'avons pas au cœur cette image offerte par Jésus-Christ d'un Dieu qui aime, d'un Dieu philanthropique, eh bien, nous aurons l'image d'un Dieu inhumain. Et qu'est-ce qu'un Dieu inhumain ? C'est un Dieu impitoyable, et même, au bout du compte, un Dieu homicide. C'est ce que nous enseigne cette histoire assez édifiante que l'on trouve dans un écrit intertestamentaire, le Testament d'Abraham. Nous y lisons que Abraham fut emmené au ciel pour parcourir la terre et voir comment les choses se déroulaient en compagnie de l'archistratège Michel. Et Abraham y voit tout ce qui s'y fait, effectivement. Et à un moment donné, il voit des hommes qui sont armés de poignards. Et il demande à Michel, qui sont ces gens ? Non, ce ne sont pas des anges, justement, armés de poignards. Michel lui répond, ce sont des voleurs qui veulent commettre un meurtre, voler, tuer, détruire. Abraham dit alors à Dieu, « Seigneur, écoute ma voix et ordonne que des bêtes sauvages sortent de la forêt et les dévorent. » À ces mots, « des bêtes sauvages sortent de la forêt et les dévorent. » Un peu plus loin, dans un autre endroit, Abraham voit un homme et une femme qui se livrent à la prostitution. « Seigneur, dit Abraham, ordonne que la terre s'ouvre et qu'elle les engloutisse. » Et aussitôt, la terre s'en trouve et les engloutit. Et cela continue sur la même lancée. Et alors, une voix vient du ciel qui dit à l'archistratège, « Michel, ramène Abraham en arrière, pour qu'il ne voit pas toute la terre habitée. En effet, s'il voit tous ceux qui vivent dans le péché, il va détruire toute la création. Car voici, comme Abraham n'a pas péché, il n'a pas pitié des pécheurs. Mais moi, J'ai créé le monde et je ne veux pas que l'un d'eux périsse. Au contraire, je diffère la mort des pécheurs jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Conduis Abraham à la première porte du ciel pour qu'il y voie les jugements et les rétributions et qu'il se repente des âmes des pécheurs qu'il a fait périr. Je trouve cette histoire édifiante parce qu'elle nous aide à comprendre à quel point nous avons besoin des pensées de Dieu pour être plus humains, c'est-à-dire pour être un peu plus à la ressemblance de Dieu. Sans l'incarnation, nous pourrions vivre légitimement sous ce régime d'une souveraineté de Dieu, comme autrefois, on en trouve beaucoup de récits dans les écrits du Proche-Orient, autour du royaume de Jérusalem. Souveraineté d'un Dieu éloigné de l'humanité, à l'image de ses souverains, devant lesquels il fallait se prosterner 7 fois, en franchissant les maîtres et les maîtres qui nous séparaient du trône où le souverain régnait en maître, reclus dans son univers, coupé de nos préoccupations, de nos inquiétudes, de nos besoins, ignorant tout de nos conditions de vie, incapable de ressentir quoi que ce soit à notre égard, finalement. Et du coup, si notre foi était placée en un tel souverain, en un tel Seigneur, eh bien, évidemment, nous projetterions un même sentiment envers ceux qui nous entourent. Nous porterions sur eux un regard dénué de compassion, incapable d'espérer quoi que ce soit à leur endroit. Et finalement, nous en viendrions peut-être à espérer, comme ce trésorier d'une mosquée de Roubaix, l'instauration de la charia qui préconise la lapidation et les mains coupées pour les voleurs. Dieu se fait homme pour nous rendre plus humains, et nous en avons cruellement besoin de cela. Dieu se fait homme pour nous ouvrir à de meilleurs sentiments, je dirais des sentiments chrétiens. Et bien entendu, les chrétiens n'ont pas le monopole des bons sentiments. Mais au moins, l'incarnation nous interdit en quelque sorte, nous empêche, nous préserve en principe de passer du côté de l'inhumain. Dieu se rend humain pour nous rendre héritiers de cette vie éternelle qui éloigne en principe, en bonne théologie, les flammes de l'enfer que nous sommes si prompts à attiser. Dieu se rend humain pour nous montrer ce qu'est la vie véritable, lorsqu'on retire les habits de la barbarie. Oui, c'est vrai qu'il y a un caractère exemplaire dans la vie de Jésus, mais c'est heureux finalement. Cela nous montre, et c'est un peu l'idée de Calvin, que la volonté de Dieu est praticable. Dieu se rend humain pour nous rendre plus humains, pour que nous ne soyons pas du genre à offrir des pierres à ceux qui nous demandent du pain, tout simplement. Et voilà bien ce que nous expérimentons au contact du Christ Jésus. C'est pour cela, chers frères et sœurs, qu'il me semble légitime de défendre l'incarnation. Et je dirais même plus, c'est pour cela, frères et sœurs, que la dynamique d'incarnation, toujours à l'œuvre dans notre histoire, est un fait central de la foi chrétienne. Non seulement elle nous aide à mieux comprendre Dieu, mais elle nous révèle à nous-mêmes et nous permet d'exceller dans les œuvres bonnes, dans ce qui est beau et utile, selon la recommandation de l'apôtre. Le bénéfice de l'incarnation, c'est de nous révéler la douceur de ce nom, Emmanuel, qui, en nous rendant plus proches de Dieu, nous rend plus proches de nous-mêmes. Amen.